Donc, oh, bref. Qui, Roger dit ça? Qui a dit ça? Roger? Alors voilà l'image que va... Bon, j'espère que maintenant vous êtes familier avec ces problèmes, et qu'il ne s'agit pas du tout de cela, c'est bien évident. L'image que va employer Judas Lévi, qui est l'image de la vigne. Car gam arechem azé. Rechem, que, regardez bien, resh kaf mem, c'est la motte de terre. Chez atem omrim, dont vous dites vous-même, il s'adresse au Kuzari, qui a kerem, que la vigne, matzliachbo, le coteau sur laquelle telle vigne réussit. Loule hayu not imbo et agefanim, s'il n'en avait pas planté et les vignes, vers osim et kol melechet avodat akerem, et qu'on n'avait pas fait tous les travaux nécessaires à la vigne, à drusha le gidulam, qui sont nécessaires pour que la vigne grandisse, l'oreille osé en avim, il n'aurait pas donné de raisin. Vehine, a ma'ala miyuchedet, la qualité particulière, ba rishona, l'aram, est allé d'abord au peuple, à Sherhu Asegula, Vagarain, qui est cette spécificité et ce grain, que Moshe Iskartile Marla, comme on a vu d'ailleurs dans les cours précédents, Vahareze, Yesh Gamlaaret, Chelek Bamaalaz. Mais après cela, il y a un deuxième facteur, qui est celui de la terre elle-même. D'abord, la qualité de la Segula est définie par le peuple. Il y a eu une mutation anthropologique. Mais, cette mutation anthropologique ne pouvait prendre racine que dans cette terre-là. Et c'est pourquoi, dès qu'elle émerge en Abraham, la première chose et la seule d'ailleurs que Dieu avait à lui dire à Okhazdim, c'est « rejoins le coteau ». Vous avez compris le problème. Voilà, vous rappelez ce verset des prophètes, « Matsati et Abotechem karanavim bamidbar ». J'ai trouvé vos ancêtres comme des raisins au désert. Et je leur ai dit, on va aller planter la vigne, là où il faut planter la vigne. La Shulamite du Cantique des Cantiques répondrait, vous voyez quel verset je fais allusion, j'ai gardé la vigne des autres et ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Vous rappelez de... Voilà. « Vecharezé, yeshgam laharet tcherek b'mahala azot. Vechen, et aussi, ajoute le Kuzari, le Judaévi. » J'ai l'habitude de dire le Kuzari quand je citais Judas Lévi. Et aussi les comportements et les mitzvot et les commandements qui dépendent de la terre. Vous voyez l'ordre ? Il y a d'abord le peuple, ensuite la terre, ensuite les commandements. Je voudrais vous analyser là. C'est clair ce que je dis là. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef. Analysez l'expression mitzvot tluyot vare. Les commandements qui dépendent de la terre. Le Rakouk nous a enseigné, c'est pas écrit à l'envers. C'est pas la terre qui dépend des commandements. C'est le commandement qui dépend de la terre. C'est les mitzvot qui dépendent de la terre et pas la terre des commandements. Il y a donc ici un ordre qui nous est enseigné. Les Juifs, Eretz Israël, la Torah. Alors bien entendu, à l'échelle individuelle, toutes les stratégies sont possibles. Mais oui, à l'échelle du klal, qu'il y a un ordre, au moment de la tria, de la réidentification. Et je reviens à cette question auquel vous faisiez encore allusion. C'est ce qui préoccupe beaucoup les esprits en diaspora, c'est ce poids considérable des rabbins très orthodoxes et des juifs très orthodoxes devant ce problème de... ils ne sont pas dans l'ordre des propositions de la tradition elle-même. Okay. Par exemple, quelqu'un nous dira... Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux devenir un bon juif dans la diaspora et après seulement aller en Eretz Israël? Mais on n'a jamais fini de devenir un bon juif, alors quand est-ce qu'ils vont venir? Et, par exemple, et si c'est comme ça, pourquoi pas? Mais ce n'est pas ça le problème au niveau du klal. Comme je dis souvent, il n'y a aucun verset qui dit « les juifs purs reviendront ». Il y a écrit « Les Juifs reviendront ». Et c'est là-bas que ça se passe. Bon. Alors, on continue. Shem, c'est-à-dire ou mitzvot atluyot baaret, les commandements qui dépendent de la terre, qui sont reliés à la terre, shehem me'en avodat akerem la kerem, et qui sont comme le travail de vigne pour une vigne. Mais il faut d'abord que la vigne soit sur son terroir. Oulam, cependant, sheloka kerem, à la différence de la vigne, arosé anavim, gambe makomacher, qui elle, la vigne, peut faire des raisins, même dans un autre endroit, en amasegula, yachol leidabek, ba'inan eloki, ki imbaret azot. Ce peuple de la segula ne peut être véhicule du inan eloki que sur cette terre-là. Alors là, Judas Lévi nous a donné une bombe. Okay. Essayons de réfléchir ensemble comment pour nous formuler en termes d'identification sociologique ou historique ce qu'il veut dire. Je crois qu'on peut le dire de la manière suivante, là nous tenons l'enseignement du Rav Kook. Le Klal Israël n'est qu'en Eretz Israël. Et dans la Galout, Khutzlaret, il y a les Kehilot. Ça veut dire la notion du Klal Israël n'a pas disparu dans la Galout, mais elle est devenue théorique, référence théorique. La réalité concrète était ce que nous appelons les communautés, les Kehilot. Mais le Klal dont il est parlé n'apparaît, se dévoile qu'en Eretz Israël. Je crois que c'est la manière, au fond, la plus simple, la plus directe de le comprendre. Un peu, peut-être qu'il faudrait le relier à cette dimension de cosmopolitisme dont je parlais tout à l'heure. Parler du peuple juif dans le sens de l'ensemble collectif, de la nation juive dans le sens de l'ensemble collectif. En faisant abstraction d'Eretz Israël, comme en parle Judas Lévi, c'est au fond se référer à une notion de cosmopolitisme et non pas de collectivité. Parce que finalement, ce qu'il y a de commun entre les Juifs différents du terroir étranger où ils sont, c'est la référence à Eretz Israël et non pas du tout à leur identité spécifique dont la différentielle chaque fois est ce que les Goïm leur ont donné. C'est-à-dire ils ne seraient communs que dans leur différence, et c'est ça le cosmopolitisme. C'est-à-dire c'est le contraire du clan, qui lui ne peut être lié que dans cette insertion de la vigne chez elle, dit Judas Lévi. Bon, je pense que c'est suffisant. Ça ne veut pas dire que la segula du peuple juif a disparu, mais elle était un peu provisoirement entre parenthèses et dans une référence devenue spirituelle beaucoup plus que concrète et réelle. Et lorsque cette référence concrète et réelle se dévoile, il est normal qu'elle dépayse les juifs de l'histoire juive qui pendant 2000 ans s'étaient habitués à un tout autre régime. De telle sorte de ne pas arriver à diagnostiquer que cette réalité était la réalité de ce rêve et que ce rêve n'était que le rêve de cette réalité. Quelque chose de cette sorte. Bon. Alors le Kuzari répond « Haomnam ». Haomnam, comment dire ça en français littéraire? Haomnam.
En vérité.
Pendant le Kuzari, Haomnam, en est-il ainsi vraiment, Haomnam. Il y a un mot français très précis, mais il m'échappe.
Certes.
Non, pas exactement ça. Haomnam, en est-il vraiment ainsi en vérité? Haomnam. Est-ce possible? Si en comment on dit cela en français, en argot, on dirait tu parles.
Oui, quelque chose comme ça.
Haomnam. Vahalo, mais Adam Arishon, Ve'ad Moshe, ne m'as-tu pas dit toi-même que depuis le premier homme jusqu'à Moïse, Umi Moshe, Ve'ad Sof HaNevoa, et depuis Moïse jusqu'à la fin du temps de la prophétie, Nubeu Rabim Bim Komot Acherim, qu'il y a eu de nombreux prophètes qui ont prophétisé dans d'autres endroits. Ça contredirait ce que tu viens de me dire. Okay. Si tu dis que cette terre seule secrète la prophétie, alors comment se fait-il que tu m'aies dit toi-même que depuis le premier homme, etc., il y a eu des prophètes dans d'autres endroits? Abraham Beur Kazdim. Abraham à Ur Kazdim. Mais rappelez-vous qu'est-ce que Dieu lui a dit à Ur Kazdim? Lève-toi et marche. Il n'a pas dit autre chose. Okay. Et Ézéchiel et Daniel ont prophétisé à Babel. Et n'est-ce pas que Jérémie a prophétisé en Égypte même? Réponds. Kolmi shenitnave, quiconque a prophétisé, n'a prophétisé que dans cette terre, que sur cette terre, ou à son sujet. Voilà la réponse de l'Élu. Car Zachar Abraham in Boato, ainsi Abraham a obtenu sa prophétie, Arishona la première, Kacher Tsuval Alechet et la Aretzazot, lorsqu'il a reçu l'ordre d'aller dans cette terre. Véchesquiel et Daniel, Bahavura Nibaou, et Ézéchiel et Daniel n'ont prophétisé que par rapport à cette terre, Achen Shneem Raouraud et Tabaït Arishon. Or, ajoute Judas Lévi, il ne faut pas oublier que Ézéchiel et Daniel procèdent du terroir du Baït Rishon, du premier temple. Ils ont eu le premier temple. C'était des Hébreux en voyage. Et dans leur voyage, ils ont prophétisé par rapport à la maison. Elle dit ton objection n'est pas une objection. Et aussi, d'abord, sa prophétie, il la reçoit en Eretz Israël pour aller à Ninive. Et il essaye de s'enfuir de sa mission pour ne pas porter tort aux gens d'Eretz Israël. Vous vous rappelez du problème. Achen, Shnei Maorod et Tabaït Arishon, Vet Kevod Ashrina, et la gloire de la présence manifestée. Asher kol yemei hayota shora bebayit ahou, qui, pendant tout le temps où elle résidait dans cette maison du premier temple, haya kol adam amuchad nechar, était tout homme préparé pour, prêt à, dans le sens d'une préparation préalable, mitzad ha segula magiar la nevoa, préparé à cela de par sa segula du inyan elohi, arrivé à l'expérience de prophétie. C'est-à-dire autant, j'ajoute peut-être une petite dimension complémentaire. Au temps de la prophétie, eh bien, tout homme d'origine du Inyan HaElohi pouvait prophétiser. Et puis, ce temps de la prophétie cesse avec le commencement du temps d'exil. C'est relié aussi à Eretz Israël. Les deux dimensions sont corollaires. J'en dirai un peu plus, peut-être. La prophétie cesse en un temps où deux éléments apparaissent, deux phénomènes apparaissent. La destruction du Klal, 10 des 12 tribus sont détruites, il reste un ensemble d'individus qui est quand même quelque chose de l'ordre d'un quasi-Klal, si j'ose dire. Mais le Klal vraiment a été détruit. Et puis, la dispersion a commencé. Et le lien avec la terre a cessé. La prophétie s'arrête. Elle n'est pas arrêtée complètement. Les Juifs ont emporté avec eux une capacité de prophétie occultée. Et il y a, je l'avais signalé dans les premiers cours, encore ce séminaire, il y a une espèce dans le génie juif, une espèce de tendance à la prophétie. Mais ce n'est qu'une tendance à la prophétie. Ce n'est que par façon de parler qu'on dira, oh, un tel est un prophète. Mais, je voudrais éviter d'employer des termes trop philosophiques, cette capacité prophétique n'est pas annulée, elle est occultée. Elle reste en potentiel. Et elle rend compte du génie juif, mais qui n'est rien à côté du génie hébreu. Voilà ce que je veux dire. Le génie hébreu a secoué l'humanité entière. Encore une fois, nos schémas habituels, que tout le monde de l'Occident à travers la chrétienté, tout le monde de l'Orient à travers l'Islam, et le reste, et beaucoup d'humanisme, à l'échelle de l'universel, la conscience humaine, était tellement secoué par le génie hébraïque des prophètes hébreux, c'est qu'il y a là un indice du génie hébraïque qui dépasse considérablement ce que peut représenter le génie juif à proprement parler. Vous comprenez la différence d'époque, qui lui-même est considérable, mais qui n'est rien par rapport au génie hébraïque lui-même. Est-ce que c'est bien clair ce que je dis là? Et quelques mots du génie juif, c'est pas la peine de les affirmer à Dibourg. Vous êtes au courant que ça existe. Il suffit de citer le problème mystérieux de la statistique des prix Nobel. C'est un problème mystérieux. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les goïms ne sont pas capables d'être des prix Nobel. Ne me faites pas dire cela. Il y a un problème de statistique qui est mystérieux. Et quelles que soient les explications mécanistiques et sociologiques de la condition juive qui secrète des prix Nobel, c'est très joli, mais il n'en reste pas moins que ça marche chez les juifs et pas chez d'autres à ce niveau de statistique. Friedman faisait un peu allusion d'ailleurs par le biais à cela. Et il n'y a pas seulement que les prix Nobel. Il y a dans beaucoup de comportements de la société humaine, la proportionnelle de l'élite juive est quelque chose de mystérieux. Donc il vaut peut-être mieux de temps en temps ne pas trop en parler à voix haute en public, ça risquerait d'affoler les populations. Mais je vous assure que quand on y réfléchit profondément, c'est très mystérieux. C'est très affolant. Okay. Par exemple, je voulais terminer l'année. Par exemple, il m'arrive de dire un peu sous forme de blague, mais ce n'est pas tellement une blague, même les rabbins sont tous juifs. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est un rabbin dans ce sens-là ? Ceux qui lisent la Bible hébraïque et pas une autre. Il faut être juif pour ça. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire ? Or, ce génie juif est indéniable. Mais reporté à l'indice du génie hébraïque, c'est pratiquement rien. Parce que le génie hébraïque, c'était la prophétie. La Inyana Eloki manifestée. Et cette manifestation cesse au moment de la destruction du clan d'Israël en tant que nation et de la dispersion, c'est-à-dire la rupture du lien direct avec la terre. C'est clair. Est-ce que vous aviez une question ? Une minute, monsieur d'abord. Je t'écoute.
Alors, en Israël aussi, il y a beaucoup d'enfants surdoués.
Il y a un problème. Il y a une proportion d'enfants surdoués. Je ne sais pas, je n'ai pas étudié la chose suffisamment pour vous dire si vraiment elle est anormale par rapport, significative par rapport aux autres pays. Je ne sais pas. Seulement, ce que je sais, c'est que on y prête peut-être plus attention que dans d'autres pays. Ça c'est probable.
Peut-on dire que quand même l'Extrême-Orient.
Je veux dire, là ça nous oblige à ouvrir une parenthèse, mais je crois que c'est important. Et voilà un peu ce que je pourrais vous dire de ma propre expérience de ces problèmes. C'est que, très paradoxalement peut-être, le génie juif n'a pu se conserver en tant que génie juif que là où il y avait ou la chrétienté ou l'islam. Partout ailleurs, il s'est dilué, il s'est perdu dans le paysage. Comme si, très paradoxalement, cette espèce de contrariété par l'islam ou la chrétienté avait joué d'une certaine manière un rôle conservateur. Je ne sais pas comment vous dire. Les civilisations extrêmement, extrêmement orientales, de par la nature de leurs options culturelles, sont tellement accueillantes, absorbantes, assimilatrices, que le génie juif, c'est récapitulé comme expression, se perd là-dedans. Il est embrassé, étouffé. Intégré. Peut-être qu'il y a là. Pardon ?
Malheureusement, on peut se demander si ça n'était pas aussi la situation de minorité en diaspora qui a fait que les Juifs ayant besoin de se firmer et l'importance de la culture traditionnelle a fait que il y a eu tellement. Tandis que ce que j'ai entendu dire, ça m'a fait très peur, à Pâques, quand j'étais en Israël, c'est que maintenant, dans une classe, dans une petite classe, où les Arabes sont en minorité, ils sont quelquefois les premiers à.
Et pourquoi pas ?
Alors moi, je veux bien.
Pourquoi pas ? Mais n'oubliez pas, ce que je dirais peut-être un peu forcé, il y a le phénomène de l'intelligentsia palestinienne, des Arabes palestiniens. N'oubliez pas, d'une part, il y a deux facteurs que je veux quand même mettre en évidence, c'est que ce sont quand même des Arabes qui vivent en Eretz Israël, et ça joue, Eretz Israël elle-même. Okay. Et même si ce n'est pas des Arabes, si c'est des Grecs ou des Arméniens. Okay. Et d'autre part, c'est le fait qu'ils sont pris à l'intérieur d'un système scolaire juif. Ah, l'intelligentsia palestinienne, de ceux qui ont été élevés en Eretz Israël par dans l'État juif, est supérieur d'un 10 à tout autre dans les pays arabes. Et ils sont l'élite des pays arabes actuellement. Et ils sont un peu, si vous voulez, les juifs des arabes, d'une certaine manière. Mais je crois que nous devons relier ça au sujet. Il y a quelque chose qui travaille dans cette terre quand les juifs sont là. Et ça atteint tout le monde. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous avez dit ?
Par rapport à l'élection du peuple juif, à une réminiscence de ce fait que les anges ont enfanté des enfants avec des femmes juives.
Ah, vous voulez dire que nous sommes des mamzerim d'ange? Écoutez, je pourrais la... Écoutez, je pourrais à la rigueur entendre ça sous forme poétique. Oui, c'est très difficile d'aborder le sujet. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion en particulier. Peut-être à un passage de la Bible que vous citez par allusion. Il y a des anges qui sont dégringolés du ciel et qui se sont pris des... Écoutez, s'il s'agissait de ce récit-là, toute l'humanité postérieure à Noir serait dans ce cas. Tout. Donc ça n'expliquerait pas le cas particulier du Judas Lévi enseigne à travers le Inyan Eloki. Je dirais ceci, ce génie juif existe, même au niveau des valeurs morales spirituelles, cette capacité à l'échelle individuelle chez les autres nations. Là nous sommes dans un moment important du texte. Notre problème c'est que, concernant le peuple juif, c'est à l'échelle collective. Et cette mutation d'identité qui fait que là, on est disponible au Yanaïo, qui existe chez l'égoïne, à l'échelle individuelle. Et ici, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter un peu pour que ça soit bien clair. Le chidouche, la chose nouvelle que Judas Lévi remet en clarté, qui nous permet de mieux lire la Bible, c'est qu'à partir de Jacob devenant Israël, cela concerne une société tout entière, un clan, et non plus des individus. Fussent-ils en grand nombre. Je me réfère un peu à ce problème de statistique des génies juifs, prix Nobel ou autre chose. Ce phénomène de statistique ne s'explique qu'à l'indice d'une collectivité, pas d'une somme d'individus. C'est un fait de collectivité. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'à l'échelle individuelle, cette même identité n'apparaisse pas chez les nations, mais à l'échelle individuelle. Bien. Et qu'est-ce que vous voulez dire ? Dire n'importe quoi sur un fond d'intention d'antisémitisme peut mener à n'importe quoi. Vous venez, n'importe quoi. Vous savez, cette crainte de risque d'antisémitisme n'a pas besoin d'aliment pour se nourrir. Il se nourrit de lui-même. Et je crois qu'il faut être un peu sérieux et concret. Nous parlons de réalité concrète et non pas du tout d'idéologie. Vous venez de. Et d'idées. J'emploie ce terme parce que je parle français, mais très exactement la manière dont je parlerai du génie français, qui est une caractéristique de civilisation, qui a ses caractéristiques propres, ses indices propres, et sa réalité propre du génie allemand, du génie britannique, ce que vous voulez. Dans le génie juif, dans le sens analogue à ceux des autres sociétés humaines, et après tout, pourquoi n'aurions-nous pas le droit d'être nous-mêmes Vous me faites de nouveau penser à Jean-Paul Sartre avant la fin de sa vie, qui disait, mais il faut tout concéder aux Juifs, sauf qu'il le soit. Et le phénomène que je voulais citer, c'est le phénomène de statistique, d'échelle de statistique. Et ça, je crois que c'est une réalité indéniable. Je vous ai dit, je le dis d'ailleurs moi-même, il vaut mieux ne pas y réfléchir trop en public, okay, parce que ça déclenche la panique, c'est évident, ça peut déclencher l'antisémitisme, bien sûr. Mais vous croyez vraiment que les réactions de l'antisémitisme ont besoin de quoi que ce soit que les Juifs disent pour s'en nourrir ? Pardon ? Mais oui, mais ça, c'est pas un rien. Un rien peut les provoquer, mais ça, c'est autre chose. Bon, alors je vais vous dire, un Juif n'a le droit de vivre chez les goïms que si c'était, alors il vaut mieux qu'il aille chez soi. Il vaut mieux qu'il aille chez lui. Et il faut quand même être un peu... Vous savez, je veux dire une chose, c'est important. Nous avons vécu, et j'ai vécu la moitié de ma vie, au moins, dans cette condition du juif de l'exil que j'essaie de vous traduire, même si elle apparaît en tant que juif de diaspora, le monde n'est pas le même, comme étant libéré, soi-disant, les ennemis, vous verrez à quel point elle est libérée. Je veux dire, ce qu'il en dit du problème, et les autres. Il ne se passe pas de voyage pour séminaire où je viens, ou tel étudiant en philosophie ou pas, d'ailleurs, ou en littérature, me présente son projet de mémoire sur Job. Et c'est un thème obsédant. Alors je demande, pourquoi Job? C'est notre condition de style, de l'intellectuel juif. Quel? Alors ça va me dire, enfin, rentrez chez vous et puis assez avec Job. Vous savez, c'est... Ah, c'est les rues du Satan, il s'est cherché un job. Non, là, il a trouvé. Et il y a là une espèce de condition anormale. Alors il y a eu le juif de cour, alors il y a eu le juif de ghetto. Et bien maintenant, il n'y a plus de juif de cour, il n'y a plus de juif de ghetto, il y a des juifs redressés. Et s'il faut parler oui, on se parle face à face. Et réciproquement.
D'après les lignes de Capelletti qu'on lisait dans ma jeunesse, la
Gardère, le bout, c'est pas possible.
Eh bien, il s'est déployé.
Bien, est-ce qu'il y a une autre question?
Je me demande s'il y a des prix Nobel israéliens.
Voilà.
Oui, Agnon. Agnon.
Écoutez.
Il y a Agnon.
Je vais vous dire, il y a dans toutes les universités israéliennes de la graine à prix Nobel. Et n'oubliez pas que les Israéliens sont d'origine juive, ça marque.
Mais Agnon était aussi prix Nobel, non?
D'accord. Vous savez, cette société a 34 ans. Et vous savez les tâches qu'elle a accomplies et de quoi elle est interpellée. Alors, si vous leur demandez aussi, tout de suite, ça aussi, un peu de patience.
En plus, l'école Nobel est peut-être quelque chose de mineur, parce que
c'est une occasion,
de retrouver la prophétie.
Voilà. C'est ça. Nous sommes occupés à ça, à former un prix Nobel en prophétie. Nobelesse oblige. Pardon ?
C'est plutôt la vocation de la prophétie de Israël.
C'est la même expérience. Et je terminerai aujourd'hui parce qu'il est un peu tard en faisant une petite analyse sémantique. Vous avez peut-être suivi dans les journaux, la radio, je ne sais pas, il y a quelques semaines, mais c'est déjà de la préhistoire avec ce qui se passe. Toute cette bagarre politique en Israël sur le Shabbat à El Al.
Ah ouais.
Et alors, Begin, dans un de ses discours, pas tellement démagogique d'ailleurs, je dois dire, à la Knesset, a fait un panégyrique du Shabbat. Bon, en réalité, il voulait sauver sa coalition. Vous comprenez le problème. Enfin, une chose dans l'autre. Et alors, il a cité une phrase de la Hadaram, disant, plus que les Juifs ont gardé le Shabbat, c'est le Shabbat qui a gardé les Juifs. Et c'est faux. Et je vous le dis en hébreu. Plus que les Juifs ont été chômeurs Shabbat, c'est le Shabbat qui a été le chômeur des Juifs. Le chômeur Israël, c'est pas le Shabbat. Le chômeur Israël, c'est Dieu. Okay. Vous comprenez l'erreur de ce monde. Okay. Et c'est Dieu qui est chômeur Israël, et Israël est chômeur Shabbat. Et pourquoi je vous ai dit, qu'est-ce que je disais avant, pourquoi je vous ai cité ça? Je voulais éclairer quelque chose. Non, mais j'ai cité à l'âme, mais
on peut pas.
Ah oui. Et alors, dans la même foulée, Ahadaham a dit aussi une chose qui n'est pas exacte, que nous sommes le peuple du livre. Eh bien, nous ne sommes pas le peuple du livre. Nous sommes le peuple de la parole qui a été mise dans un livre. Nous sommes pas un peuple de libraires.
D'accord.
Vous avez raison. Mais je veux dire que nous ne sommes pas le peuple qui écrit des livres.
Non, voilà. Le peuple qui dépend de ce livre.
Oui, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Quand il dit Amas Sefer, il ne voulait pas tellement dire le peuple de ce livre qui est la Bible. Il voulait dire le peuple de l'instruction et d'écrire des livres. Regardez le contexte. Okay. Eh bien, c'est un peu de cet ordre. L'expérience, c'est à vous que j'ai répondu, l'expérience est commune. Il y a des Juifs qui se préparent à la capacité prophétique, mais elle ne concerne pas Israël. Et il y a Israël qui se prépare à la capacité prophétique. L'expérience doit être jointe. Et donc, c'est à travers les explications que je vous ai données, à travers la Torah Shabbat, nous allons avoir un éclairage particulier des versets qu'il cite par rapport à ce problème. Pourquoi telle ou telle expression de tel ou tel verset veut dire qu'effectivement, il allait de soi, il était connu que cette terre est une terre de ce goût-là, donc la terre privilégiée dont nous avons parlé par rapport à ce problème. Alors, j'ai encore ici certains textes, pour ceux qui n'en ont pas, prenez-les. Et puis vous les garderez au fond pour ceux qui arriveraient en arrière. Voilà. Écoutez, à la fin du cours d'hier matin, on m'a posé une question qui apparemment est en dehors du sujet, mais enfin, qui me semble importante, et je vais prendre un petit quart d'heure d'abord pour en parler. Alors, si vous voulez reformuler votre question pour tout le monde, qui est-ce?
Le rapport réel qui existe entre Abraham, Isaac et Jacob et les différents temps de la prière.
Bon, très bien. Je veux quand même le rattacher à notre sujet, c'est-à-dire que une des dimensions du Inyana Eloki, si vous en souvenez, nous l'avons vu tout au début, la capacité corollaire de prophétie et de prière. Le principe est que ce qui circule dans cette échelle de Jacob, dont nous avons parlé aussi, c'est beaucoup de choses, mais en particulier, ce qui circule entre Dieu comme source de l'être et la créature, qui, je répète toujours la même formule, qui existe en tant qu'elle est l'être qui reçoit l'être. Vous rappelez d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi le cours de Pierre Simsovic, comment, lorsqu'il a cité le Rav Ashlag, que la définition du Yetzer Hara, c'est précisément la tendance de l'être recevant l'être à se refermer sur cette réception d'être, si j'ose dire, un peu ce que les psychologues contemporains appellent l'ego, qui serait source de la tendance au mal. Vous vous rappelez de cela? Bien. Et alors, il y a une identification très précise pour la tradition de la dominante de la dimension du Inyana Eloki qui apparaît au niveau des trois patriarches, trois Avot, Abraham, Isaac et Yaakov. Alors, il y a différentes manières de pouvoir enrichir cette question qui vient d'être posée. J'en choisis une, peut-être la plus simplifiée. Abraham va nous laisser l'enseignement de son expérience. Il a découvert un des visages de cette relation entre le Créateur et la créature qui s'appelle Amidat Hachesed. Et donc, il y a une équivalence entre l'expression, mais vous mettez ça entre guillemets, Dieu d'Abraham et l'Amidat Hachesed. C'est pas au même niveau, bien sûr. Celui qui est nommé le Dieu d'Abraham se révèle à la créature à travers la modalité de Chesed. Chesed, vous comprenez le sens du terme. Bon. Tout le monde, c'est pas la peine de le traduire. Bon. Eloke Yitzhak, c'est une autre expérience, corollaire, complémentaire, et il y a progrès dans le dévoilement à travers les trois générations des Avot, c'est à travers l'Amidat Hachesed. Si on devait isoler l'expérience d'Abraham seul et théologiquement de formuler l'expression Dieu d'Abraham, ça voudrait dire la modalité de Chesed. Mais ce n'est pas encore ça, Dieu d'Israël. Le dévoilement n'est pas achevé. C'est pourquoi ce n'est pas Abraham qui est nommé Israël. Nous avons souvent étudié ce problème. C'est a posteriori de Jacob devenant Israël que nous savons qu'Abraham est de la lignée du Inyana Eloki menant à Israël. C'est important cela. Okay? Donc, dire que le Dieu d'Israël, c'est que le Dieu d'Abraham, bien sûr c'est vrai, mais c'est une hérésie. Si on le restreint à une seule des mille autres. Est-ce que c'est clair? Bon. Dire que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Isaac, bien sûr c'est vrai, mais ce serait une hérésie si on le restreint qu'à une seule des mille autres. Ça va jusque-là. Et puis la troisième modalité étant la modalité de Emet, celle qui correspond à Jacob. Et donc, si vous prenez l'expression développée, dans la formule de la liturgie. Eloke nous, veloke avotenu, Eloke Abraham, veloke Yitzhak, veloke Yaakov. Le Vav est important d'ailleurs dans notre propos. Alors, cela veut dire que lorsque nous sommes en situation de prière, nous sommes devant celui qui est Dieu, source de l'être, à qui nous demandons un supplément d'être. Puisque c'est ça l'objet de la prière, de demander une bracha, c'est-à-dire un supplément d'être. Non pas une formule de souhait de bénédiction, mais la chose bénédiction. C'est bien clair, nous avons parlé de ça dans des séminaires antérieurs, non? La chose est unique. Il faudrait dire la bénéfaction. Et quand je dis d'un être, il est béni. Qu'est-ce que ça veut dire? ça ne veut pas dire qu'on lui a souhaité la bénédiction, ça veut dire qu'il a la bénédiction. Et qu'est-ce que c'est que cette bénédiction qu'il a? Nous sommes gênés par le mot français parce qu'il ne dit que le dire de la bénédiction. Il y a un terme de théologie, comme tous les termes de théologie, c'est des termes barbares, ça vient du grec. Mais je n'ai pas dit que les grecs étaient des barbares. Ça s'appelle une eulogie. Eulogie en un seul mot, bien sûr. Ça veut dire le bien de, souhaiter le bien à. Alors que lorsque nous disons en français bénédiction, qui vient donc du latin qui correspond à eulogie, ça veut dire que soit nous disons le bien d'eux, c'est une louange, définition de louange, soit que nous souhaitons le bien à. Mais ce bien que nous disons, ce dont nous parlons, ce bien que nous souhaitons, c'est quoi le bien? Dans le sens du mot hébreu, tout, tout étant le bien moral, tout, avoir des biens, avoir du bien. Et je vous signale en passant d'ailleurs qu'il y a une erreur dans le Birkat Hamazon, et quand j'entends souvent dans le Rite Ashkenaz, Mikol Tov le Olam Hayechaskin, il faut dire Mikol Tov le Olam Hayechaskin. Corrigé. D'ailleurs, il y a une autre erreur, je ne sais pas si vous l'avez appris, et le Yadcha Meléa, c'est pas Kedosha, c'est à Gedusha. Il y a une erreur dans les éditions européennes. C'est Gedusha, c'est pas Kedusha. Gadouche, ça veut dire plein de. Gadouche. De ta main pleine, ouverte. Et... Gdusha, pas Kedusha. C'est pas dire de ta main sainte. C'est de ta main pleine. Gdusha. Donc c'est ça. Et chez les chassidim, on a gardé cette lecture. C'est pas une phrase du Birkat Hamazon, c'est paradis, mais Ashkenazi. À Gdusha, pas Kedusha. Mais c'est surtout le tov et tout qu'il faut corriger. Donc, vous connaissez ce mot-là, gadouche? Non? Depuis une minute, vous connaissez, pourquoi vous dites non? Bien. Ça y est, je suis parti dans le dictionnaire. Alors, je reviens au patriarche. Par conséquent, si nous développons l'expression Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, nous sommes en situation de demande de la bracha. La bracha, c'est un plus-être. Si nous pouvions nous satisfaire en tant qu'homme de l'être de nature, nous n'aurions pas à prier. Tout est disposé dans la nature pour que l'être de nature subsiste. Et par conséquent, la prière ne correspond pas à l'être de nature. L'être de nature ne prie pas, parce qu'il est satisfait de son existence. Mais voilà que l'homme, au niveau du Nefesh Chaya, de la Nishmat Chayim, a des exigences d'effectuation d'être qui ne sont pas au niveau de l'être de nature. Aucun travail ne lui permet d'y accéder. Et c'est la raison pour laquelle il y a un deuxième niveau du travail, Avoda en hébreu, qui est la Avodat HaKodesh, en particulier la Tfila, qui est un travail de demande pour obtenir un plus-être qui ne peut venir que de Dieu, mais pas de la nature. C'est suffisamment clair? C'est pourquoi toutes les formules de la tfila sont formulées sous forme de brachot. On s'adresse à la source des brachot, au-delà, plus haut que l'idée du Créateur. Et le Créateur nous donne la nature. Mais dans ce qui fait que le Créateur est le Créateur, il y a une autre dimension qui est source des bénédictions. Et à celui qui nous a donné l'être de nature, nous demandons plus. Je vais vous dire une blague. Il y a une phrase qui dit, ce n'est pas... Il doit aller chez Mevado. Ce n'est pas avec du pain seul que l'homme peut vivre. Il faut du beurre. Ou de la confiture. Alors, on ne demande pas le pain. Le pain, on le travaille.
On demande le beurre.
Mais non, le beurre aussi, on le travaille. Mais le goût du pain, le fait que dans le pain, il y ait bracha. Et ce n'est pas du tout une dimension magique. C'est le goût. Parce que c'est le goût du pain qui est le goût de la vie. Et si le pain n'a pas de goût, la vie n'a pas de goût, ça veut dire aller sans bracha. C'est clair. Mais l'expérience la plus directe de ce qu'on entend par bracha, nous l'avons d'abord par le goût, le parfum aussi, à condition que ce soit des parfums artificiels, une allergie. Et dès qu'on rentre dans la salle, c'est parfumé trop. Il faut aller un peu. Alors, voilà de quoi il s'agit. Le priant demande dans sa prière quoi? Des brachot. Comme s'il y avait un secret entre l'homme qui prie qui a la tzgoula de prier est Dieu. Je sais que tu disposes de telle ou telle bracha. Eh bien, je juge que j'en ai besoin, littéralement, tzrachim, tzorech. Hors de quoi, mon existence n'a pas de goût. Alors, donne-moi cette bracha. Il y a des conditions, est-ce que tu mérites, est-ce que tu ne mérites pas, mais c'est ce qui circule dans l'opération de prière, c'est un travail. Et à quel point nous sommes des, j'allais dire, dévitalisés. On ne sait plus qu'il s'agit de ça vraiment dans le geste de prière. Et il y a d'autres rites oraux, de la louange, du psaume, de l'oraison, tout ce que vous voulez. Mais là, dans ce rite de tfila proprement parlé, l'objet, c'est recevoir plus de bracha, parce que l'être qui est nommé Adam ne peut pas être chai, dans le sens de Michel Prince avec le nazi. Vous vous rappelez ? Il ne peut pas être chai, vivant vraiment, sans ses brachot, il ne peut pas être chai s'il n'est que être de nature. Il lui pousserait une queue, dirait Michel Prince. Vous vous rappelez de tout ça ? D'ailleurs, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais peut-être il y a quelque chose. Alors, à certains moments, pour bien se faire la preuve que, au fond, on n'est que des êtres de nature, alors on invite des gens à une réception et on s'habille avec un habit à queue. Vous avez remarqué, bon, alors, revenons. Là. Mais voilà que dans cette attitude devant, et nous reprenons la formule, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, nous savons qu'il y a trois portes possibles. Rien à voir avec la Trinité, encore une fois. Il y a trois, j'allais dire, visages, non, je ne dis pas visage, bien que ce soit ça, parce qu'on risquerait d'entendre personne. Il y a trois modalités, il y a trois midotes, qui sont une. Il y a la mida qui est nommée Dieu d'Abraham, celle qui est nommée Dieu d'Isaac, qui est nommée Dieu d'Esaïe. C'est clair jusque-là ? Bon. Et alors voilà, qu'il y a trois moments dans le temps de la journée. Le moment du matin est le moment où nous demandons chesed. L'accent est mis dans cette prière au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à Dieu d'Abraham. Devant le Dieu unique, l'accent de la Kavana est mis plus sur Dieu d'Abraham. C'est pourquoi la Gemara établit, par un jeu de versets dont l'exégèse est très minutieuse du jour et des heures, établit que c'est Abraham qui a institué la prière du matin. Il sait que c'est le matin qu'on s'adresse au Dieu du matin, de Chesed. Le matin, aujourd'hui, en particulier hier aussi un peu, pas les jours d'avant, mais on se réveille et on voit qu'il y a du chesed dans le monde. Une prodigalité de lumière du matin. À ce moment-là, il faudrait commencer à faire de la poésie. Mais vous avez compris l'expérience. Abraham a connu le Dieu du matin. Au matin, au réveil, on a l'expérience de chesed. Vous avez compris quoi ? Alors c'est Abraham qui prie le matin. Et vous verrez dans l'histoire d'Abraham, il se lève toujours de bonne heure le matin. Et il s'est levé de bon matin, il s'est levé de bon matin. Le matin, c'est le monde d'expérience d'Abraham, parce que c'est le monde de Chesed. Alors, la suite est claire. L'après-midi, c'est surtout Pelegamincha, à la fin du jour, l'expérience, elle est celle de Midat Hadin. C'est le temps de la prière d'Isaac. Et dans la soirée, et on va entrer dans la nuit, en vue du matin d'après, c'est la Midat HaEmet, Midat HaRachamim, et c'est là que est le temps de la prière de Jacob. Vous voyez, c'est une des approches du problème. C'est-à-dire, il y a un temps caractéristique de la relation à Dieu par la modalité Abraham, c'est le matin. Isaac, c'est l'après-midi. Jacob, c'est la nuit. Israël, c'est le matin du lendemain. À la fin de la nuit, Jacob est nommé Israël. Vous rappelez ça, et pendant toute la nuit, c'est la lutte avec l'ange. Ça va ? Alors, la Gemara cite les versets qui nous montrent que la situation de prière d'Abraham, c'est le matin. Celle de Isaac, c'est l'après-midi, et celle de Jacob, va y a l'encham qui bat à Shemesh, et Garbamakon. Bon, on pourrait le rattacher donc à notre sujet. C'est que la construction de la capacité de ces goûts-là a eu toute une dialectique, a eu des moments qui sont caractérisés, enfin qui sont effectués à travers la capacité d'identité humaine d'Abraham, Midat HaChesed, de Yitzhak, Midat HaDin. Pour y avoir toute une vision du Dieu dont parle la Bible, en se restreignant à l'idée de Dieu d'Abraham. C'est pas faux, mais c'est complètement faux. Je sais pas comment expliquer ça, mais vous avez compris. Alors on ne verrait que l'expérience de Chesed, et on serait dans un monde faux, parce que le monde qui est le nôtre n'est pas géré uniquement par la Midat HaChesed, et ne s'est donné qu'à la Midat HaChesed bien finalement, c'est se mettre devant un monde faussé. Ça ne veut pas dire que la mise à arrêter ne soit pas une valeur absolue aux autres. Vous voyez le caractère délicat de cette définition. De même, pour la Midata Dine, il faut accéder à la capacité de Jacob de la Midata Emet pour arriver à retrouver enfin l'unité profonde de celui dont il est parlé. Quelqu'un qui vous dirait « Dieu est amour », eh bien il dit la vérité, mais s'il est sous-entendu « n'est que cela », c'est un faux Dieu. Quelqu'un qui vous dirait « Dieu est justice », il dit la vérité, mais si vous disiez « si ça s'entend qu'il est que cela », c'est un faux Dieu.